de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonjour, chers jurités auditeurs. Dans le monde entier, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour l'édition de lundi 16 décembre 2019. Et comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et modernisée. L'arbre suivante, magazine culturel, apprendre l'indonésien. Et avant de terminer cette émission, nous allons présenter le magazine musical. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez maintenant la voix de l'Indonésie avec le journal. Vous êtes avec moi Audrey, je vais vous présenter quelques événements importants entre autres. Le ministre indonésien de la Défense commence sa visite en Chine. L'Indonésie et le Japon renforcent leur coopération dans le développement de véhicules électriques. La pollution atmosphérique, la fumée provoque une maladie pulmonaire obstructive chronique. Le gouvernement de Régence soutient la construction d'un port d'exportation à Serouai et le prix du charbon raffiné ont de nouveau augmenté pour atteindre 66,30 dollars par tonne. Cher Jolitard, voici les nouvelles en complet. Le ministre indonésien de la Défense commence sa visite en Chine. Le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, a commencé sa visite à Pékin, en République populaire de Chine, dimanche 15 décembre 2019. L'arrivée à l'aéroport de Pékin à 7h15 heure locale, le ministre indonésien de la Défense a été accueilli par l'ambassadeur d'Indonésie en Chine, Jauhari Oratmangun, et l'attaché de défense de l'ambassade d'Indonésie à Pékin, le général de brigade Budiman et le Major Général Song Yan Chao, de la Direction de la Coopération Militaire Internationale, le ministère de la Défense Nationale de la République Populaire de Chine. Cette visite devrait durer 3 jours et à cette occasion, le ministre indonésien de la Défense rencontrera le ministre chinois de la Défense Nationale, le général Wei Fenghe est le vice-président de la Commission militaire centrale de la République populaire de Chine, RPC, le général Su Xilian. Lors de sa première visite en Chine, le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, discutera des efforts qui peuvent être faits ensemble pour renforcer la coopération dans le secteur de la défense. L'Indonésie et la Chine, jusqu'à présent, ont établi une bonne coopération dans le secteur de la défense au niveau bilatéral et dans le cadre régional. L'Indonésie et le Japon renforcent leur coopération dans le développement de véhicules électriques. L'Indonésie et le Japon continuent de collaborer aux efforts de développement de l'industrie automobile, y compris les préparatifs de l'ère de l'électrification ou de véhicules électriques à batterie. Cette étape stratégique a été réalisée grâce à une collaboration entre le ministère indonésien de l'Industrie et le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie du Japon, comme l'a déclaré le directeur général de l'industrie des métaux, des Chine, des machines, des transports et de l'électronique Ilmat du ministère de l'Industrie, République d'Indonésie, Haryanto, dans sa déclaration dimanche 15 décembre. La collaboration a été discutée lors du deuxième dialogue automobile Indonésie-Japon à Bali récemment. Les connaissances et l'expérience concernant la normalisation et les augmentations techniques sont mises en œuvre dans les deux pays constituent également une discussion intéressante, y compris l'utilisation d'énergies renouvelables, biocarburants. Les deux parties ont également discuté du développement des investissements et des incitations pour le développement de l'industrie des véhicules électriques. En outre, l'Indonésie et le Japon sont depuis longtemps des partenaires stratégiques dans l'établissement d'une coopération économique. La pollution atmosphérique, la fumée, provoque une maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC. L'hôpital public central Pasahabatan, en collaboration avec la faculté de médecine de l'Université Indonésia et l'Association indonésienne des médecins pulmonaires, a organisé une commémoration de la maladie pulmonaire obstructive chronique MPOC et maladie pulmonaire obstructive chronique dans la zone de la journée sans voiture Jakarta dimanche 15 décembre. La MPOC est une maladie caractérisée par des symptômes respiratoires persistants et un débit d'air respiratoire limité en raison d'anomalies dans les voies respiratoires. Budi Antariksa, président du comité pour la commémoration de la Journée mondiale de la MPOC 2019, en marge de la commémoration de la Journée mondiale de la MPOC à Jakarta dimanche 15 décembre, a déclaré que les principales causes de la maladie pulmonaire obstructive chronique MPOC étaient causées par la pollution de l'air et la fumée de cigarettes.
Pertama karena PPOK itu biasa dialami oleh orang-orang yang merokok.
Premièrement parce que la MPOC est généralement ressentie par les personnes qui fument ou peut-être qu'ils occupent un emploi polluant. Il y a encore beaucoup de gens qui fument en Indonésie. Deuxièmement, l'espérance de vie de l'Indonésien a également augmenté. La maladie MPOC affecte généralement à l'âge de 45 ans et plus, généralement entre 45 et 50 ans et plus. Et qu'avec une espérance de vie accrue, le nombre de MPOC augmentera également. Troisièmement, nous sommes à Jakarta avec une atmosphère de ville polluante, ce qui est en effet très encombré en termes de pollution de l'air en Indonésie. Et cette pollution est l'une des causes de la MPOC. Budi Antariksa a en outre déclaré qu'avec 3 millions de décès chaque année, la MPOC est actuellement la quatrième cause de décès dans le monde et devrait être la troisième cause de décès dans le nombre en 2020. Le gouvernement de Régence soutient la construction d'un port d'exportation à Serouai. Le gouvernement de la Régence d'Aceh Tamiang fournit un soutien complet pour la mise en œuvre du développement du port pour les activités d'exportation et d'importation dans le village d'Air Masin, district de Serouai. Le régent d'Aceh Tamiang, Mursil à Kuala Simpang Aceh Tamiang, a déclaré dimanche qu'il y avait un port, de sorte qu'à l'avenir, les activités d'exportation ne seraient plus illégales et bénéficieront à une partie pourraient améliorer le bien-être des habitants d'Aceh Tamiang. Selon Mursil, pour s'en rendre compte, son parti a immédiatement préparé de nombreuses étapes, allant de l'octroi de licences à la rédaction des documents administratifs. Il a expliqué que la construction du port doit être soutenue par le développement du secteur maritime et de la pêche, car les activités d'exportation et d'importation dans le futur Aceh Tamien aurait un impact sur la croissance économique et le bien-être des communautés côtières. Les prix du charbon raffiné ont de nouveau augmenté pour atteindre 66,30 dollars par tonne. Le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales et SDM, Arif Tasrif, a fixé le prix de vente du marché pour les produits du charbon en décembre 2019 à 66,30 dollars américains la tonne ou a augmenté de 0,3 dollars par tonne par rapport au prix de référence du charbon de novembre HBA de 66,27 dollars par tonne. Ça a été dit dimanche par le chef du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales. Le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales, de la Communication et de l'Information de Jakarta, il a déclaré que le principal facteur de la hausse du prix du charbon de référence en décembre 2019 était une augmentation de la demande de stock de charbon avant l'hiver. Agun Pribadi a déclaré que cette augmentation était la troisième fois que les prix mensuels du charbon de référence augmentaient depuis août 2018 et a enregistré le chiffre le plus bas des deux dernières années de l'année moyenne. La maison de Jakarta lancera l'application Zakat. L'institution de gestion de Zakat Infaq Am et le fonds humanitaire Rumah Zakat lancera une application numérique de Zakat le 8 janvier 2020. L'application n'est pas seulement utilisée pour distribuer le Zakat, mais les gens peuvent l'utiliser pour chercher des aliments ou des vêtements. Le directeur du programme Rumah Zakat, Mourni Alit Baginda, a révélé qu'en 2020, Rumah Zakat mènera une campagne sur le thème « Le bonheur indonésien ». La campagne devrait partager des programmes pouvant toucher de plus larges bénéficiaires dans toute l'Indonésie. Il a été dit par Mourni Alit Baginda lorsqu'il a été trouvé dimanche dans la zone de la journée sans voiture, Dago, Bandung City, Java occidental. Selon lui, son parti a invité la communauté à bouger pour partager entre eux des petites choses pour devenir des mouvements généralisés. Pour que l'impact soit ressenti par le peuple indonésien, non seulement cela, le domaine de l'automisation se renforce. Selon lui, l'une des étapes franchies en 2020 a été la transformation numérique en créant des applications Zakat. Serge Littard, c'est tout le nouvel.
Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Prévoir la croissance économique de l'Indonésie en 2020 ». À la fin de 2019, de nombreuses parties prédisent la croissance économique de l'Indonésie en 2020. L'Agence centrale de statistiques, ou BPS, a publié le 5 novembre 2019 des données sur la croissance économique de l'Indonésie au troisième trimestre 2019, qui s'élevait à 5,02%. Ce chiffre a ralenti par rapport au premier et deuxième trimestre de 2019, qui ont augmenté de 5,07% et 15,05%. L'économiste de la Banque asiatique de développement en Indonésie, M.A.R. Allen, projette la croissance économique de l'Indonésie en 2020 atteindra 5,2% avec les encouragements du secteur des investissements et des chiffres de la consommation privée qui restent forts. Cela a été communiqué après une discussion intitulée « Perspectives économiques et politiques de l'Indonésie 2020 » tenu à la Communauté de politique étrangère d'Indonésie avec PricewaterhouseCoopers à Jakarta vendredi 13 décembre. La projection est basée sur des investissements qui augmenteront après la nomination d'un nombre de cabinets dans le deuxième gouvernement du président Joko Widodo et l'annonce de la promulgation prévue de la loi Omnibus qui devrait rendre le secteur des affaires indonésien plus attrayant et invitant à l'investissement. L'Association des entrepreneurs indonésiens ou APINDO a déclaré que la croissance économique de l'Indonésie l'année prochaine ne sera pas très différente des conditions de cette année. Selon les données de l'étude d'Apindo, la croissance est estimée à 4,85% jusqu'à 5,1%. De notre côté, le ministère de la Planification de Développement National et l'Agence nationale de planification de développement, dimanche soir à Jakarta, a exprimé son optimisme que la croissance économique de l'Indonésie pourrait atteindre 6%. Dans le même temps, dans la conférence de presse, le vice-ministre des Affaires maritimes et des ressources naturelles du ministère de la Planification de Développement National de la République d'Indonésie, M. Arifin Rudianto, a déclaré à Jakarta des stratégies pour que l'économie indonésienne croisse en moyenne de 6% dans le plan national de développement à moyen terme 2020-2024. La stratégie consiste notamment à encourager la croissance des investissements, notamment dans le secteur manufacturier. En effet, le secteur manufacturier a une forte valeur ajoutée et Laval est encore susceptible d'être exploité en faisant la haute technologie de gros investissements. Une autre chose qui est également importante est l'amélioration du climat d'investissement en simplifiant les réglementations et procédures d'investissement, ainsi que la sélection de sites qui se concentrent sur les zones industrielles et les zones économiques spéciales. Quelle que soit la prévision, le peuple et le gouvernement indonésien doivent rester optimistes que l'économie indonésienne augmentera en 2020 par rapport à 2019, bien que ne soit pas facile au milieu des conditions mondiales incertaines d'aujourd'hui, surtout avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et les troubles géopolitiques dans un certain nombre de régions. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à tous, vous écoutez maintenant l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie. Commençons par les événements du 16 décembre 1971, jour de la victoire au Bangladesh. La guerre d'indépendance du Bangladesh est un conflit armé entre le Pakistan occidental qui s'appelle maintenant le Pakistan et le Pakistan oriental qui s'appelle maintenant le Bangladesh et l'Inde. Cette guerre a conduit à la création du Bangladesh. Cette guerre a duré du 27 mars au 16 décembre 1971. Le Pakistan occidental a lancé une opération militaire contre les résidents, les étudiants et le personnel armé du Pakistan oriental au Bangladesh pour écraser leur résistance à l'indépendance du Pakistan. Après cette guerre, le Pakistan oriental est devenu indépendant en tant que pays maintenant appelé Bangladesh. Passons aux événements du 16 décembre 1989, la révolution roumaine. La révolution roumaine de 1989 a été une manifestation massive qui a duré une semaine qui a commencé le 16 décembre 1989. Ce mouvement cherchait à renverser le régime communiste Nicolae Ceaușescu. Les violents affrontements ont culminé avec le procès et l'exécution de Ceaușescu et de sa femme Elena. La Roumaine a été le seul membre du bloc de l'Est à renverser son régime communiste par la violence et à exécuter son chef. Le nombre total de victimes tuées lors de la révolution roumaine était de 1104. Chers auditeurs, nous terminons avec l'incident du 16 décembre 1991, l'indépendance du Kazakhstan. Le Kazakhstan a proclamé son indépendance le 16 décembre 1991. La nation kazakh est le plus grand groupe ethnique qui occupe le territoire du Kazakhstan et est un descendant des tribus turques et mongoles. Au début du XVIIIe siècle, la Russie était contrôlée par la Russie. Lorsque la révolution communiste a gagné en Russie et que l'Union soviétique a été établie depuis 1920, le Kazakhstan est devenu l'un des 15 pays membres de l'Union soviétique. Avec la dissolution de l'Union soviétique, le Kazakhstan était libre et est devenu un État républicain. Ce pays a un avantage géographique car il est situé entre l'Asie centrale et l'Europe de l'Est, ce qui le rend géopolitiquement réalisable. Serge Littard, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Rindu yang ada semakin terasa di hati ini, tak pernah pergi di jiwa ini. Kau yang tercinta selalu ada di hati ini, terus sembunyi. Aku sadari kau tercipta bukan untuk aku. Aku kan menunggu sampai nanti. Takkan terganti dirimu di dalam hati ini, kan terus semayam sampai mati. Izinkanlah aku untuk mencintai kamu. Cintaku ini, rasaku ini, takkan berubah pasti. Aku sadari kau tercipta bukan untuk aku. Aku kan menunggu sampai nanti. Terus semayam sampai mati. Aku sadari kau tercipta bukan untuk aku. Aku kan menunggu sampai nanti. Takkan terganti dirimu di dalam hati ini, kan terus
ini.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était la première chanson intitulée « Irremplaçable » chantée par Once. Et vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde. Chers amis, pour l'heure suivante, voici « Mon Indonésie ».
Bonsoir à tous, vous écoutez maintenant la rubrique « Mon Indonésie » de la voix de l'Indonésie. Vous êtes avec moi, Audrey. Le ministère de l'Agriculture renforce sa coopération avec l'Arabie Saoudite pour l'exportation de divers produits agricoles. Le ministère de l'Agriculture renforce la coopération avec l'Arabie Saoudite pour accroître le commerce, en particulier les produits agricoles, y compris les plans d'exportation de riz. Le ministre de l'Agriculture, Sahrul Yassin Limpo, en acceptant l'arrivée de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite Essam bin Abed Al-Thakropi à Jakarta jeudi dernier, a garanti que les produits agricoles indonésiens pourraient être exportés vers l'Arabie Saoudite, en particulier en ciblant la population musulmane du pays, car tous les produits étaient certifiés halal. À la même occasion, le personnel expert du ministre de l'Agriculture dans le domaine du commerce et des relations internationales, Banun Harfini, a expliqué qu'à l'heure actuelle, l'Arabie Saoudite importe toujours ses besoins en riz de Thaïlande, d'Inde et des États-Unis. Banun a déclaré que les produits de poulet congelé seraient également proposés à l'exportation. En effet, la source de poulet importé d'Arabie Saoudite provient du pays du Brésil et contient des salmonelles. De sorte que le poulet congelé est temporairement absent à nouveau. Par conséquent, l'Indonésie prévoit de remplacer le marché du poulet congelé pour l'Arabie Saoudite. Banun a ajouté d'autres produits de base potentiels pour les exportations arabes, à savoir les bananes et les ananas Cavendish, qui ont été exportés vers divers pays. Pour accélérer les exportations, le gouvernement indonésien a eu la possibilité de présenter les produits agricoles indonésiens à travers une exposition qui se tiendra en janvier à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Jakarta. En outre, il est prévu qu'en février, le ministère de l'Agriculture se rendra officiellement en Arabie Saoudite dans le cadre du suivi de la coopération commerciale dans le secteur de produits agricoles. Pendant ce temps, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, Essam bin Abed Al-Thakropi, a déclaré qu'il avait discuté avec le ministère de l'Agriculture des produits agricoles indonésiens qui pourraient être exportés. L'ambassadeur Essam a également déclaré qu'un mémorandum d'accord entre le ministère indonésien de l'Agriculture et l'Arabie Saoudite se tiendrait prochainement dans un proche avenir. L'un des mémorandums d'accord est directement lié à l'agriculture comme l'organisation de formation pour les agriculteurs et les projets d'exportation de produits agricoles, y compris les machines agricoles dont le marché saoudien a besoin. Chers auditeurs, c'est tout la rubrique Mon Indonésie.
Cinta yang telah kau beri, Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
J'écoutais toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était la deuxième chanson intitulée « À ma façon » chantée par Arsi Widianto. Et chers amis, vous êtes toujours avec nous la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.bonus.id. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter Magazine Culturel.
Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans votre rubrique quotidienne, le Magazine Culturel. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une visite touristique au temple Batu Bolong à Nusa Tenggara Occidentale. Soyez toujours avec nous, la Voix d'Indonésie, le service international de RRI. Thank you. Saya cerita letang pelu batu bolong elang di objek turistik de la Côte de Lombok konstruksi suk de la Pierre Noire. Lang pas semang letang pelu et ke strategik. Ile situé dans le hameau de Batu Bolong dans le district de Batu Layar à l'ouest de Lombok ou à environ 5 minutes du centre touristique la place de Senggigi ou à 20 minutes du centre-ville de Mataram. Selon l'histoire, le temple Batu Bolong a été construit en 1533 par Anaset, à savoir Dang Hyang Duyendra, originaire de Java Oriental, quand il a propagé des Zangdu de l'île de Java à l'île de Bali. La dernière destination était l'île de Lombok. Le nom du temple est tiré de la forme de la pierre noire où le temple a été construit. La grosse pierre en forme de colline a un trou. Auparavant, le trou était un accès permettant aux populations locales de chercher du bois dans la forêt de Senggigi avant la construction de la rue artère sur le flanc des collines qui relient les régions ouest et nord de Lombok. Si l'eau de mer est à marée basse, vous pouvez traverser le trou qui ressemble à une grotte et arriver à environ 5 mètres à pied. Vous arriverez directement à la plage de Doudou, la longue plage où il n'y a pas de bâtiment entourant la plage, à l'exception de petites échoppes. Pour entrer dans le complexe du temple, vous devez payer 15 000 rupias à 20 000 rupias pour le don. Les portières vous donneront un châle jaune noué à la taille, reconnaissant que vous êtes l'invité du temple. En entrant dans le temple, vous ne devriez pas être trop bruyant car c'est un lieu de culte. Autour du temple Batu Bolong, il existe de nombreux logements si vous voulez profiter plus longtemps de la beauté de la nature qui entoure le temple. Chers auditeurs et auditrices, c'était le magazine culturel pour ce soir avec comme titre « Le temple Batu Bolong à Nusa Tenggara Occidental ». Demain, nous retrouverons avec un autre sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Sudahkah kau
Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Dis l'amour » chantée par Naura. Et vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici « Apprendre l'indonésien ».
Bonsoir tous les amis. On se retrouve avec moi, Tiwi, dans l'émission « Apprendre l'indonésien », une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Le sujet d'aujourd'hui est cuti akhir tahun. Je répète, cuti akhir tahun, ou en langue française, congé de fin d'année. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée cuti akhir tahun. Cuti akhir tahun, ou en langue française, congé de fin d'année. À la maison de Joko, Tony et Joko discutent du projet de vacances de Joko.
Akhirnya, aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan.
Syukurlah. Berapa lama kamu akan cuti?
2 minggu.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir cuti akhir tahun, ou en langue française, congé de fin d'année. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase 2 fois. Vous pouvez les répéter après moi. Awal. Awal. En français, le début. Akhir. Akhir. En français, la fin. Tengah. Tengah. En français, au milieu. Berangkat. Berangkat. En français, départ. Berjemur. Berjemur. En français, bronzer. Akhirnya, aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. Akhirnya, aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. En français, enfin, je peux prendre un congé à la fin de cette année et au début de l'année prochaine. Syukurlah. Syukurlah. En français, merci mon Dieu. Berapa lama kamu akan cuti? Berapa lama kamu akan cuti? En français, combien de temps vas-tu prendre un congé? 2 minggu. 2 minggu. En français, 2 semaines. Akhir bulan. Akhir bulan. En français, fin du mois. Berlibur. Berlibur. En français, prendre des vacances. Awal bulan depan. Awal bulan depan. En français, début du mois prochain. Liburan akhir semester. Liburan akhir semester. En français, vacances de fin de semestre. Tengah semester. Tengah semester. En français, mi-semestre. Tengah malam. Tengah malam. En français, minuit. Tengah hari. Tengah hari. En français, midi. Saya. Saya. En français, je. Mereka. Mereka. En français, il ou elle. Dans le dialogue, Joko dit, akhirnya aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. Akhirnya, aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. En français, enfin, je peux prendre un congé à la fin de cette année et au début de l'année prochaine. Dans l'expression transmise par Joko, il y a le mot awal, awal en français début, et ahir, ahir en français fin. Les mots awal et ahir peuvent être combinés avec des mots qui indiquent des périodes, tels que minggu, minggu en français semaine, bulan, bulan en français mois, semestre, semestre en français semestre, et tahun, tahun en français année. L'exemple de l'utilisation dans la phrase: saya akan cuti pada akhir bulan ini. Saya akan cuti pada akhir bulan ini. Qui signifie je prends un congé à la fin de ce mois. Kami akan berlibur pada awal bulan depan. Kami akan berlibur pada awal bulan depan. Qui signifie nous passerons des vacances au début du mois prochain. Sebentar lagi kita akan liburan akhir semester. Sebentar lagi kita akan liburan akhir semester. Qui signifie bientôt nous allons prendre des vacances à la fin du semestre. Kamu akan kemana akhir minggu ini? Kamu akan kemana akhir minggu ini? Qui signifie où vas-tu ce week-end? Outre les mots awal et ahir, il existe d'autres mots qui est généralement utilisé pour indiquer l'heure lorsqu'il est combiné avec le mot qui indique la période, c'est-à-dire le mot tengah. Exemple dans la phrase: mereka akan berangkat pada tengah malam nanti. Mereka akan berangkat pada tengah malam nanti. Qui signifie ils partiront à minuit. Aku tidak mau berjemur pada tengah hari. Aku tidak mau berjemur pada tengah hari. Qui signifie je ne veux pas bronzer à midi. Pada tengah semester ini tidak ada liburan. Pada tengah semester ini tidak ada liburan. Qui signifie au milieu du semestre, il n'y a pas de vacances. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre mieux, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Akhirnya, aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan.
Syukurlah. Berapa lama kamu akan cuti?
2 minggu.
Chers amis, voilà l'édition de la rubrique Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention et à demain.
Jangan kau bohongi hatimu. Jelas kau ingin aku. Percuma punya wajah yang merdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Izinkan ku isi harimu. Usir mendung kelabu. Percuma punya tampang yang syahdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Oh, tunggu apa lagi sayang, tinggalkanlah dia.
hari-harimu ada lalu ku apalagi sayang ku lebih baik darinya tak akan ada lagi tangis air mata buat apa kau mengutuk dalam kisah yang semu. Cinta, oh, apalagi sayang, tinggalkanlah dirinya, kan ku buat hari-harimu bahagia. Lalu, apalagi sayang, ku lebih baik darinya, tak akan ada lagi tangis air mata. Hari-harimu penuh bahagia. Apa
lagi sayang,
ku lebih baik darinya. Tak akan ada lagi tangis air mata.
Chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta et merci d'être fidèle à notre antenne. Vous avez écouté tout à l'heure la quatrième chanson intitulée Qu'attendez-vous, chantée par Lala Huta. Et chers amis, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia avec le magazine musical. Cette fois-ci, je vous présente une chanson de Keroncong intitulée Pandangan Pertama. Cette chanson raconte du coup de foudre. On ne comprenait pas ce qui se passait, mais on était fasciné et aucun mot n'était capable de le dire. Le thème du coup de foudre est à peu près soulevé dans diverses œuvres d'art, comme des chansons, de la poésie, des romans et du théâtre. Bon, chers auditeurs, voici la chanson de Sri Hartati, dont le titre est Pandangan Pertama, qui signifie « Première vue ». Bonne écoute!
Pada pandangan yang pertama, hati telah terpusat. Siapa ku bertanya, gerangan apa sebabnya? Pada pandangan yang pertama, serasa hati bertanya. Berdebar selalu ada irama yang menentu. Nafas pun menyesal di dada, lenyap segala rencana. Pada pandangan yang pertama, aku telah jatuh cinta. Pada siapa aku mengadu, semuanya tiada
Chers auditeurs et auditeurs, dans le monde entier, c'est l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.